l'écriture de l'évangile de Saint Jean, es-tu arrivé au second témoignage de Jean-Baptiste? Et je crois que dans la vision de Saint Jean, c'est très important de bien voir ces deux témoignages. Le premier, quand Jean est au désert, et que Jésus passe. Et Jean est illuminé intérieurement. Il y a comme une nouvelle expérience, une rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus. Jésus ne dit rien. Et intérieurement, Jean est éclairé sur Jésus comme l'agneau de Dieu qui porte l'iniquité du monde. Là, c'est le lien très fort de Jean et d'Isaïe, de Jean-Baptiste et d'Isaïe. Je crois que c'est très important de comprendre cela. Il y a un lien très fort entre Jean-Baptiste et Isaïe. Et là, on retrouve le mystère de l'agneau. L'agneau qui porte l'iniquité du monde. Et puis ici, nous allons essayer d'entrer dans ce second témoignage de Jean-Baptiste. Nous allons découvrir comment Jean-Baptiste, dans un contexte tout à fait différent, c'est encore Jean-Baptiste au milieu de ses disciples, si vous voulez, mais c'est dans un contexte de lutte. Les disciples de Jean-Baptiste sont pris de jalousie. Ça existe, hein, les jalousies religieuses, hein, c'est les pires. Et alors, les jalousies des disciples de Jean-Baptiste par rapport aux disciples de Jésus. Et Jean-Baptiste est un merveilleux père maître. On va corriger ses disciples de cette jalousie. Et je crois que c'est là où on va saisir quelque chose de très important. Parce que c'est bien une correction fraternelle pour leur demander de dépasser, d'aller plus loin, découvrir autre chose. Et cette découverte, ce sera justement comme ce que Jean-Baptiste vit. Et je crois que le premier témoignage repose sur une expérience immédiate, cette rencontre au désert de Jean-Baptiste et de Jésus. Ici, c'est beaucoup plus le fruit, j'allais dire, de toute sa prière intérieure. Jean-Baptiste est resté au désert, alors que ses disciples l'ont quitté et ont suivi Jésus. C'est rude de rester au désert comme Jean-Baptiste. Il est resté au désert parce que c'était ça la volonté de Dieu. Et là, on voit les vocations diverses. Jean-Baptiste reste là, au désert, avec ses disciples. Il a offert à Jésus deux de ses disciples. Les deux qui sont partis spontanément devant le témoignage de Jean-Baptiste. Dans ce sens-là que Jean-Baptiste, qui est si pauvre, s'est encore appauvri. La seule richesse de Jean-Baptiste, c'est d'avoir des disciples. Vous voyez que c'est la plus grande des richesses, hein. Et c'est la seule richesse qu'il avait les disciples. Et ses disciples, il les a offerts à Jésus. Deux de ses disciples. Alors on ne dit pas si ce sont ceux qu'il aimait le plus, mais je crois. On peut dire que c'est ceux qu'il aimait le plus. Et donc c'est cela qu'il a offert, spontanément. Et lui est resté. Donc ses disciples sont passés devant lui. Ça c'est, je crois, la qualité merveilleuse d'un maître. Quand il est vraiment un maître, c'est de laisser les disciples passer devant. Et Jean-Baptiste laisse passer devant ses disciples. Un véritable maître, celui qui cherche la vérité, celui qui la transmet, mais qui est dominé par la vérité, et qui ne domine pas, donc qui est vraiment pauvre, c'est celui qui permet justement aux disciples de passer devant. et lui reste. On ne voit pas assez cette situation de Jean-Baptiste, que je trouve tellement belle, tellement grande. Il est là pour laisser passer devant Jean et André. Et ici, alors le fruit de sa contemplation, lui qui est resté au désert, avant qu'il ne soit été mis en prison, comme Jean le souligne, Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Et c'est bien évident, puisqu'il est encore avec ses disciples. Mais le souligne, pour bien nous rappeler comment Jean-Baptiste terminera sa vie. Toujours par amour pour la vérité. C'est un grand aimant de la vérité, Jean-Baptiste. Et c'est ce qui explique sa si grande pauvreté. Et le fruit de sa contemplation, c'est de découvrir que celui qui est l'agneau est l'époux. Et c'est cela que nous allons découvrir. Et alors, c'est les deux grands axes, je crois, de l'évangile de Saint Jean. C'est beau de voir comment le disciple qui est passé devant va garder les deux grands trésors de son maître. Et les deux grands trésors de son maître, c'est l'agneau et l'époux. Par où il y a le rattachement avec toute l'ancienne alliance, toute la première alliance. Le mystère de l'agneau, le mystère de l'époux. Qu'on retrouve alors ici, et qui sont comme les deux grands axes de la vision johannique. C'est en ce sens-là, vous voyez, que la vision johannique est enracinée dans ce qu'il y a de plus profond dans le prophète Isaïe et dans Osée. On voit les deux grands aspects. La révélation s'est reprise d'une manière différente, mais c'est dans le prolongement. Après cela, Jésus vint avec ses disciples en terre de Judée. Et là, il séjournait avec eux et il baptisait. Jean aussi était à baptiser à Énon, près de Salie, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et les gens se présentaient et ils étaient baptisés. Baptême de pénitence, baptême de l'eau. Car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Il y eut donc une discussion entre les disciples de Jean et un juif à propos de purification. Donc toujours des discussions par rapport à ce que représente la liturgie. On sait très bien. Ce sont les discussions les plus véhémentes et les plus passionnées, les discussions liturgiques. Pour des gens dévots, pour des gens pieux, n'est-ce pas ? Parce qu'ils ont toujours un tout petit peu la tentation de faire des gestes liturgiques un absolu. Alors que le geste liturgique n'est pas un absolu. Il est un signe qui exprime quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. Donc on voit la dispute à l'égard de la purification. Il y a donc un climat déjà un tout petit peu passionnel. Climat passionnel au niveau liturgique. Et ils vinrent vers Jean et lui dirent « Rabbi ». Donc on traite Jean comme celui qui doit juger, à travers cette discussion. « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous viennent vers lui. » Donc tu as fait une grave erreur, tu ne passes devant toi. Et il a beaucoup plus de succès que toi. C'est ça que ça veut dire. Hein? Et on voit très bien la réclamation des disciples de Jean. Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous viennent vers lui. Jean répondit. Et il dit, un homme ne peut rien prendre qui ne lui ait été donné du ciel. Vous-même témoignez que j'ai dit, je ne suis pas moi le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Donc, on voit tout de suite, hein, J'en suis mis dans une lumière contemplative. Il dépasse les discussions pour s'élever plus haut. Et je crois que c'est ce qu'on doit toujours faire hein, quand il y a des disputes liturgiques. Il faut les dépasser. Autrement, l'aspect passionnel augmente. Hein. Et alors, c'est ce regard vers Dieu, ce regard contemplatif. Un homme ne peut rien prendre, ne peut rien s'attribuer qui lui a été donné du ciel. Tout ce que nous avons bien ne vient pas de nous. Donc on n'a pas le droit de s'en orgueillir. Ça vient de Dieu, qui lui a été donné du ciel. Donc, c'est quelque chose qui le dépasse. La seule chose qui nous appartient sont nos défauts et nos fautes. Hein. Alors ce n'est pas un avoir très 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 merveilleux. C'est la seule chose qui nous appartient, qui ne vient pas directement de Dieu, qui vient de nous. C'est notre orgueil, c'est notre vanité, c'est tout ce qui vient de nous, toutes les fautes. Tandis qu'au contraire, les qualités que nous avons, les qualités, même ça ne vient pas de nous. Nous pouvons développer les talents que nous avons, c'est très bien, les qualités que nous avons, mais fondamentalement, ces qualités, ça vient de Dieu. Vous voyez là, la source de la véritable humilité. Hein. La véritable humilité dans un regard contemplatif, c'est cela. Une fois qu'on a compris cela, on laisse passer les autres devant. Ça ne nous gêne pas du tout. Parce qu'on ne cherche plus à se mettre soi-même en valeur. On laisse passer devant celui qui a telle qualité, qui a une qualité que nous n'avons pas. Mais cette qualité vient de Dieu aussi. Il y a la même source. Alors, il ne faut pas être jeune. Un homme ne peut rien prendre qui ne lui a été donné du ciel. Il ne peut rien s'attribuer, prendre à lui, qui lui a été donné du ciel. Vous-même témoignez que j'ai dit, je ne suis pas moi le Christ, mais je suis envoyé devant lui. J'en se met tout de suite, Jean-Baptiste se met tout de suite, relatif à Jésus, dépendant de lui. Je suis envoyé devant lui. Voilà ma mission. Alors c'est ici où on découvre le cœur de Jean-Baptiste. Celui qui a l'épousé est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là, ça c'est le stabat de Jean-Baptiste, hein, il se tient toujours là. C'est la même chose qu'on voit des gens. Jean se tient là, au désert. Il est fixé au désert. Il a fait vœu de stabilité au désert. Hein. C'est vraiment le vœu de stabilité de Jean, ça. Qui se tient là. Ça caractérise. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend. Donc qui entend l'époux. Qui entend la voix de l'époux. Est ravi de joie à la voix de l'époux. C'est donc ma joie, la mienne. Et elle est en plénitude. Il faut que celui-là croisse et que moi je diminue. Alors, vous voyez, je crois que là nous saisissons quelque chose de très profond dans le cœur de Jean-Baptiste. Il est resté au désert. Il est resté au désert croyant que c'est cela que Dieu réclame de lui. Quand on fait la volonté de Dieu, on est illuminé par Dieu. On est éclairé par Dieu. Vous avez reçu l'onction et vous n'avez pas besoin d'être enseigné. Hein, ce que dit Saint Jean dans sa première épître. Et je crois que Jean Baptiste, il a reçu l'onction. Il est sous la mouvance de l'Esprit. Et s'il est sous la mouvance de l'Esprit, il est enseigné par l'Esprit. Il est enseigné directement par l'Esprit, sans mépriser les autres enseignements, c'est bien évident. Mais c'est son devoir de rester au désert. Et l'homme du désert, c'est l'homme qui, justement, a soif d'être directement sous la mouvance de l'Esprit. C'est bien ce que Jésus dit à Nicodème. Il entend la voix, du vent. Il entend la voix du vent, donc il est enseigné directement par celui qui est le souffle de Dieu. Jean a découvert ce lien de l'agneau et de l'époux, puisque celui qu'il a désigné comme l'agneau qui porte l'iniquité du monde, c'est en même temps l'époux. C'est ce lien entre l'époux et l'épousé, celui qui a l'épousé et l'époux. C'est beau aussi de voir que c'est par rapport à ceux qui l'aiment, qui le suivent, qu'il est l'époux. Et c'est à partir de là qu'on découvre le mystère de l'époux. Et Jean-Baptiste se dit l'ami de l'époux. Lorsque les pharisiens avaient interrogé Jean, et Lévite et les prêtres et les pharisiens qui avaient invité Jean, ceux qui venaient de Jérusalem, ceux qui venaient mandatés par l'autorité religieuse, et qui avaient demandé à Jean-Baptiste ce qu'il était. Jean-Baptiste était défini en s'appuyant du reste directement sur Isaïe. Jean-Baptiste était défini la voix de celui qui crie dans le désert. Après avoir rencontré l'agneau qui porte l'iniquité du monde, Jean se définit l'ami du monde. Là, nous pouvons découvrir cette lumière qu'il a reçue directement à partir de sa rencontre avec l'agneau. Il est resté, parce que c'était la volonté de Dieu pour lui, de rester au désert et de voir ses disciples passer devant. Il est resté au désert pour accomplir sa mission, le baptême de pénitence, être celui qui annonce la venue du Messie. Il est resté au désert, mais étant dans la volonté de Dieu, il a été éclairé. Il a compris ce lien entre Jésus et lui. Il est l'ami de l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Mais comme on est loin de ce que représente la jalousie, c'est juste l'inverse. La jalousie, elle est en opposition à ce regard divin que l'Esprit a mis dans le cœur de Jean. Jean considère qu'il est l'ami de l'époux, donc il accepte que les autres passent devant l'épousé, ceux qui sont immédiatement reliés à Jésus. Jean aussi est immédiatement relié à Jésus, mais autrement, il doit rester au désert. De façon visible, de façon extérieure, il n'est pas immédiatement relié, mais il est relié intérieurement. Il est l'ami de l'époux. Et là, il aime l'épousé comme l'époux lui-même aime l'épouse, du même amour. C'est une illustration merveilleuse, voyez, de la charité fraternelle, cela. Je crois que c'est peut-être cela qu'on doit regarder. Et c'est ce qui annonce le précepte nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est l'aurore qui nous est montrée là, dans le cœur de Jean-Baptiste. Et on voit cette qualité étonnante de la charité fraternelle. La jalousie brise la charité fraternelle. La jalousie s'oppose. On ne veut pas regarder l'autre et l'aimer. Alors on le rejette le plus loin possible. si l'on veut, on l'écarte. Parce qu'on a peur qu'il soit un rival. Ici, au contraire, en étant l'ami de tout, il a les mœurs de l'époux. Être l'ami de quelqu'un, c'est d'avoir la même volonté que lui. C'est d'avoir le même regard que lui. C'est d'avoir le même discernement que lui. Devenant l'ami de l'époux, il aime tous ceux que l'époux aime. Et non seulement il aime tous ceux que l'époux aime, mais il est dans la joie de voir ce lien entre l'époux et l'épouse. Il est dans la joie, et c'est cette joie qui en lui est plénière, de voir que l'époux est lié pleinement et totalement à l'épouse. Je crois que c'est cela qui est le grand secret qui nous permet de lutter contre toute espèce de jalousie. Mais ça exige un regard contemplatif. Au fond, il n'y a que la contemplation qui peut lutter contre la jalousie. Parce que la jalousie, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Hein, depuis le début, hein, quand vous regardez le début de l'écriture, quand vous regardez Caïn et Abel, hein, la jalousie religieuse et fraternelle, c'est la pire. La jalousie religieuse, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Et quand elles sont fraternelles en plus, et quand elles sont fraternelles et religieuses, c'est là, c'est quelque chose qui va encore plus loin. Et alors, ça brise le lien d'amour. On le rejette, et ça conduit à l'homicide. Ou ça conduit à mettre dans le puits. Les frères de Joseph sont jaloux, jalousie fraternelle. Celle-là, elle est moins religieuse. Mais elle est quand même religieuse en ce sens qu'ils ne peuvent pas accepter que Joseph puisse avoir des songes et qu'eux n'en ont pas. Donc il y a quand même quelque chose de religieux. Alors on le met dans le puits. Et à travers toute l'écriture, vous voyez constamment que la jalousie brise. Alors ce qui est très extraordinaire, c'est que nous retrouvons par rapport à Dieu. Dieu est un époux jaloux. Et nous retrouvons des Abraham. Cette alliance est une alliance de l'époux et de l'épouse. Israël, c'est l'épouse. Il y a le lien de l'époux et de l'épouse. Et il y a la jalousie de l'époux et de l'épouse. Et quand vous retrouvez, après la captivité de Babylone, au retour de la captivité, quand le prophète Ézéchiel montre qu'il faut l'unité du royaume du nord et du sud, alors que la brisure qui s'est faite entre le royaume du nord et du sud s'est faite au moment de la plus grande gloire de Salomon. C'est aussi très curieux. Comme si justement il y avait eu là quelque chose qui avait été trop loin, alors qu'il avait fait la brisure. Et le prophète ne peut pas accepter la division. Ceux qui sont les enfants d'un même père ne peuvent pas être divisés. Autrement, ils ne sont plus les enfants d'un même père. Et c'est pour ça que le prophète Ézéchiel, alors lui, rappelle qu'il faut cette unité. Et l'unité repose sur le mystère de la jalousie de Dieu. C'est parce que Dieu est un Dieu jaloux que Dieu ne peut pas tolérer la division à l'égard de ses enfants. C'est insupportable. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Alors c'est très beau, vous voyez, de voir que nous trouvons le même mot, la jalousie de Dieu, qui exprime la qualité extrême de l'amour de Dieu pour nous. Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il ne fait pas de partage. Il se donne totalement. Quand Dieu se donne, il se donne totalement. Nous, nous partageons. Tandis que Dieu se donne totalement, c'est pour ça que c'est un Dieu jaloux. C'est le Dieu qui se donne et qui réclame par le fait même le don total. La jalousie de Dieu réclame le don total. Et s'il y a le don total, il ne peut plus y avoir de division. il y a des divisions à cause des partages. Parce qu'on considère qu'il y en a un qui a plus que nous. Toutes les jalousies proviennent des héritages, vous savez bien. Dans les familles, c'est comme ça. Hein. C'est au moment des héritages où les jalousies se font sentir. On dit, oh, regardez, cette famille est terriblement unie. Oh, il n'y aura jamais de division chez nous. On a tous entendu ça. Puis au moment de l'héritage d'un grand-oncle ou d'un grand-père, alors à ce moment-là, ça se divise. C'est très curieux. C'est toujours au moment des héritages. Parce qu'on va avoir une part plus grosse. Comme là, on ne peut pas tout avoir. Quand on est seul, on prend tout. Il y a Dieu qui, lui, peut se donner totalement sans se partager. Et c'est pour ça que la jalousie est intolérable quand il s'agit des dons de Dieu. Et c'est bien ce que Jean-Baptiste dit tout de suite, un homme ne peut rien prendre qui ne lui a été donné du ciel. Alors, c'est très beau de voir cela. C'est très grand de comprendre que la jalousie humaine, elle est au niveau de la passion. Il est un accaparement. Il est un égoïsme forcené. C'est qu'on regarde tout par rapport à nous-mêmes. Et on ne regarde pas l'autre. Et on n'accepte pas que l'autre passe devant. On n'accepte pas de regarder les qualités de l'autre. Alors on est gêné de ce qu'il possède et ce que nous ne possédons pas. C'est, j'allais dire, une certaine qualité, en comprenant bien, de la jalousie et d'un amour jaloux, donc d'un amour accaparant. Un amour passionnel est toujours accaparant. Il veut le ramener à nous. Alors à ce moment-là, un amour passionnel, trop passionnel, qui n'est que passionnel, si vous voulez, fait qu'il est nécessairement égocentriste. On ramène tout à soi. Et alors à ce moment-là, ce que les autres ont devient intolérable. Tandis que quand il s'agit de la jalousie de Dieu, du zèle d'amour de Dieu, c'est pour nous faire comprendre la grandeur de l'amour de Dieu. Quand Dieu se donne, il se donne pleinement et totalement. Il va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il donne tout. Alors, quand notre héritage, c'est Dieu, on comprend que la jalousie est intolérable. L'alliance de l'époux et de l'épouse, c'est montrer que c'est Dieu lui-même qui se donne pleinement et totalement à l'épouse. L'épouse n'a pas d'autre héritage que celui de l'époux. Et il ne peut pas avoir d'autre héritage que celui de l'époux, c'est-à-dire le don même de l'époux. Alors, voyez ici, c'est très très grand de comprendre comment Jean-Baptiste, qui a découvert le mystère de l'amour, découvre le mystère de l'époux. Et découvre que ce mystère de l'époux fait que dans cette alliance à travers Jésus, lui-même est impliqué, il l'a découvert. Mais il reste à l'écart. Il ne suit pas Jésus comme un disciple de Jésus. Il est un disciple purement intérieur. Et extérieurement, il doit rester là. Il doit rester tout proche. Et extérieurement, il reste avec ses disciples. Et au moment où les disciples sont jaloux, d'une jalousie passionnelle, d'une jalousie humaine, parce qu'il leur semble que Jésus manque de reconnaissance à l'égard de Jean-Baptiste. Mais vraiment, un manque de reconnaissance, puisque c'est à cause du témoignage de Jean-Baptiste que ça réussit si bien. Dans leur perspective à eux, c'est à cause du témoignage de Jean-Baptiste. Donc, au fond, c'est grâce à Jean-Baptiste. Et Jésus devrait reconnaître cela. Et Jean-Baptiste, lui, s'élève plus haut. C'est bien que ce n'est pas son témoignage. Lui, c'est le pauvre. Il a témoigné sous le souffle de l'Esprit Saint et dans la lumière de l'Esprit Saint. Il a découvert le Messie. Il a découvert l'agneau. Ayant découvert l'agneau, il a rendu témoignage en pauvre. Donc, sans rien accaparer pour lui. Et parce qu'il n'a rien accaparé pour lui, Cette première vérité, elle a pris possession de son cœur. Quand nous sommes pauvres, la vérité prend possession de notre cœur. On est possédé par la vérité, juste l'inverse. On ne possède pas la vérité, on est possédé par la vérité. C'est tout à fait autre chose. Posséder la vérité, c'est la dominer, on sent encore mieux. Tandis qu'au contraire, être possédé par la vérité. Jean a été possédé par l'agneau, Jean-Baptiste. Il a été possédé par l'agneau. Ayant été possédé par l'agneau, il a découvert que l'agneau, c'était l'époux. Ayant découvert qu'il est l'époux, qu'il est celui qui réalise cette alliance de l'époux et de l'épouse, c'est normal. Il est l'époux. Et donc, l'épouse est toute relative à lui. L'épousée est toute relative à lui. Et lui, son plus grand titre de noblesse, c'est d'être l'ami de l'épouse. D'avoir été là, au moment de la charnière. D'avoir été là pour rendre témoignage. Et pour bien faire comprendre son amour, j'allais dire, son amour tout à fait gratuit, sans aucun désir d'accaparement. Il est pauvre et donc il est aimé gratuitement et il aime gratuitement. C'est propre du pauvre de pouvoir aimer gratuitement et de recevoir un amour gratuit. Sa plus grande joie, c'est d'être l'ami du pauvre. Sa plus grande joie, c'est d'entendre la voix du pauvre. La voix du pauvre, pas pour lui, mais pour le pauvre. Parce que c'est cela qui lui fait découvrir la grandeur de l'épouse. C'est ce lien de l'épouse et de l'épouse. Et alors il est dans la plus grande joie. Celui qui a l'épousé et l'épouse. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend. Donc se tient là au désert, dans la solitude. Alors il pourrait dire, vous voyez, je suis écarté, je suis mis à l'écart, pas du tout. Il se tient là, en contemplative du désert, et qu'il l'entend, et ravi de joie à la voix du Père. C'est donc ma joie, la mienne, elle est en plénitude. C'est la joie de l'ami du Père. Alors, vous voyez, au point de vue de la charité fraternelle, comme c'est merveilleux. C'est ça, la joie de la charité fraternelle. C'est de découvrir dans nos frères ce que la Providence est proche de nous, qui sont aimés de l'époux, qui sont l'épousé, qui sont l'épouse. Alors, c'est juste l'inverse à ce moment-là de la jalousie, c'est d'être joyeux de voir que l'époux est proche de l'épouse. Il entend la voix de l'époux. Pour l'épouse, il en est joyeux. Je crois que c'est ça la vraie joie de la charité fraternelle, vous voyez. On est pour son frère l'ami de l'épouse. Et on considère que son frère est l'épouse. Il vit de l'alliance de l'épouse et de l'époux. Et on est dans la joie de voir cela. Et à ce moment-là, justement, on peut le laisser passer devant. On n'a plus aucun désir d'accaparement. On est dans cette pauvreté intérieure, cette pauvreté qui vient de l'Esprit de Dieu, qui nous craint, qui nous met dans cette pauvreté radicale, qui permet d'entendre la voix des pauvres. Il faut que celui-là croisse et que moi je vive. Ses disciples reçoivent une bonne petite leçon, hein, parce qu'ils réclamaient, parce que lui augmentait le nombre de ses disciples, c'était la seule chose qu'il voyait, et que les disciples de Jean n'augmentaient pas selon le même rythme, alors que Jean dit juste l'inverse, Jean-Baptiste dit juste l'inverse. Il faut que celui-là croisse, et comme moi je dis. La plus grande joie de Jean, de Jean-Baptiste, qui reste au désert, c'est de voir que les disciples de Jésus augmentent. Et il s'assied ici pour leur demander de faire la même chose. S'ils sont de vrais disciples, ils doivent faire la même chose. Il va donc entrer profondément dans cette joie du pauvre. Je crois que ça, c'est très très important pour nous, parce que c'est au fond cela qui maintient la vraie joie à l'intérieur de charité fraternelle. Tandis qu'au contraire, chaque fois qu'il y a la jalousie, il y a la tristesse. C'est dit à propos de Cain. Pourquoi tu le visage abattu ? Le visage abattu, une drôle de tête. C'est parce qu'on est un peu jaloux. Je ne dis pas que toute tristesse provient de la jalousie. Il ne faut pas généraliser. Mais il y a une tristesse très particulière qui vient de la jalousie. On sait très bien. Si on est un peu lucide. Alors que il y a une joie spéciale d'être l'ami de l'épouse. Alors, il va continuer en bon permettre, une fois qu'il a montré l'orientation, il va aller plus loin, il va enfoncer le clou jusqu'au bout. Hein. C'est ce qu'on va faire. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre aussi son langage. Alors, vous voyez bien les deux perspectives que nous avions déjà vues dans un autre contexte, et c'est ça qui est très curieux et qui est intéressant à remarquer. Jésus face à Nicodème, ici Jean-Baptiste face à Saint-Denis. On retrouve la même distinction. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Alors on retrouve les mêmes manières de distinguer les deux sources. Une source qui vient d'en haut, qui vient directement de Dieu, et une source qui vient d'en bas, qui est terrestre. Qui n'est pas mauvaise. Hein. Elle est mauvaise dans la mesure où elle étouffe l'autre. Mais en soi, elle n'est pas mauvaise, ce n'est pas du tout une condamnation du terrestre, mais simplement montrer l'ordre qui existe entre les deux. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est terrestre, et terrestre aussi son langage. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Ce qu'il a vu et entendu, c'est de cela qu'il témoigne. Et son témoignage, nul ne le reçoit. Alors vous voyez, c'est bien ce que Jésus disait à Nicodème. En vérité, je vous relis le passage, chapitre 3, verset 5. En vérité, je vous le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et puis Jésus dit un peu plus loin. En vérité, je te le dis, c'est de ce que nous savons que nous parlons, et de ce que nous avons vu que nous témoignons. Et notre témoignage, vous ne le recevez pas. Il y a un parallèle très étonnant entre les deux. Alors évidemment, on peut prendre uniquement en disant matériellement, vous savez, ce qu'on dit, Jean est vieux, alors alors là, c'est oublié que, quand même, c'est une parole inspirée et qu'on ne peut pas dire ça. Il y a donc autre chose. Et cette autre chose, moi, je crois que nous pouvons le découvrir de cette manière. Il est l'ami de tout. Quand on est l'ami de quelqu'un, on a les mœurs de cette personne. On découvre ce qu'il a en lui. Alors, est-ce que ce n'est pas pour nous faire comprendre qu'il y a deux manières d'être enseigné? Une manière d'en haut, les gens le disent bien. Et donc, si on est lié à l'esprit, si on est lié spirituellement, divinement, à celui qui vient de Dieu, même si on n'est pas à côté de lui, même si on n'est pas enseigné matériellement par lui. On est comme en harmonie avec lui. Et on reçoit son enseignement divinement. Dieu enseigne de l'intérieur. Et l'Esprit de Dieu nous enseigne de l'intérieur. Si on est à l'écoute, si on accomplit pleinement la volonté du Père, si on est vraiment fils de Dieu, on est mû par l'Esprit. Alors est-ce que ce n'est pas ça qui nous est montré ici, quand on fait ce parallélisme, et c'est visible ce parallélisme, hein, c'est pas la peine d'insister, il est très net. Est-ce que ce n'est pas pour nous faire comprendre que Jean-Baptiste qui est resté là au désert, seul au désert, mais par fidélité à sa vocation, par fidélité à la volonté du Père, va avoir un cœur et une intelligence qui va être en connaturalité profonde avec celle de Jésus. Il va recevoir comme un enseignement souterrain, si j'ose dire, hein, un enseignement profond. L'action directe de l'Esprit. Et c'est, je crois, cela qui nous est montré ici, pour bien nous faire saisir qu'on peut être enseigné par l'Esprit, par le Père, de cette manière toute intérieure. Celui qui vient d'en haut et au-dessus de tous, celui qui est de la terre et terrestre, et terrestre aussi son langage. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Ce qu'il a vu et entendu, c'est de cela qu'il témoigne. Et son témoignage, nul ne le reçoit. Celui qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est vrai. Celui que Dieu a envoyé parle en effet le langage de Dieu. Car Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Vous voyez la jalousie de Dieu. Il ne donne pas avec mesure. Il ne donne en plénitude. Le Père aime le Fils. Il a tout remis dans sa main. Celui qui croit en le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. On voit très bien cette manière dont Jean-Baptiste a été enseigné intérieurement, enseigné divinement, de voir comment nous devons nous mettre à l'école de l'Esprit de Dieu pour se laisser conduire et découvrir ce partage que Jean-Baptiste souligne ici, d'être à l'écoute de l'Esprit. Et si on est à l'écoute de l'Esprit, l'Esprit est donné sans mesure. Car Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Il y a comme la plénitude de l'amour qui est donné, qui est communiqué. Et on explique, alors là on revient au prologue de saint Jean, le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main. Celui qui croit en le Fils a la vie éternelle. Donc c'est bien ce don plénier d'esprit. Je crois que nous devons là essayer de comprendre comment Jean-Baptiste, sous la mouvance de l'Esprit Saint, et en dépendance de l'Esprit Saint, découvre quand Jésus, l'alliance de l'époux et de l'épouse, va prendre toute sa plénitude. Vous voyez ce que dit le père Feuillet quand il parle justement de cette alliance de l'époux et de l'épouse, il nous dit du prophète Osée au cantique des cantiques. C'est le grand mystère secret que les prophètes ont révélé. Il y a la loi qui conduit à cette alliance intime d'amour, à cette alliance toute intérieure de la jalousie de l'époux sur l'épouse. Le prophète Osée au Cantique des Cantiques. Et tout le Cantique des Cantiques exprime cette jalousie, cette alliance de l'époux et de l'épouse. Cet amour jaloux de l'époux pour l'épouse. Et cet amour réciproque de l'épouse pour l'époux, mais qui vient de l'époux, c'est la réponse. C'est l'époux qui a aimé le premier, c'est lui qui a choisi, c'est lui qui prend toutes les initiatives, et l'épouse répond. Et Jean-Baptiste, dans cette grande ligne, à la suite de cela, Jean-Baptiste devait vivre beaucoup du Cantique des Cantiques et d'Isaïe, et d'Osée. Jean-Baptiste montre comment l'ultime réalisation, c'est l'amour. Et c'est très beau de voir que c'est l'agneau. L'agneau, c'est la miséricorde. C'est le grand symbolisme de la miséricorde. Et l'époux exprime symboliquement l'amour jaloux. L'amour qui se donne totalement, qui se donne en impliquant un don personnel. Aimer, c'est se donner. Et quand l'amour est plaigné, c'est un don personnel. On est entièrement donné. C'est bien ce qui est exprimé par l'époux. Il est entièrement donné. Et Jean-Baptiste voit à travers le mystère de l'agneau ce mystère de l'époux. De la miséricorde, il remonte à l'amour jaloux. C'est bien ce que nous voyons quand on regarde de Moïse au prophète Osée. À Moïse, ce qui est révélé, c'est la grande miséricorde. Cette phrase extraordinaire, hein, quand nous voyons cette révélation que Moïse reçoit, sa vocation. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Et Dieu ne peut pas laisser son peuple dans cet esclavage, sous la tyrannie du Pharaon. Donc il révèle la miséricorde de son cœur. Et a osé, déjà avant, mais a osé d'une façon explicite, il révèle la jalousie de son amour. Vous retrouvez ici, vous voyez, dans l'évangile de Jean, à l'égard de Jean-Baptiste, vous retrouvez cette première révélation, ce premier témoignage de la miséricorde, et cet ultime témoignage de l'époux, l'agneau, l'époux. Vous retrouvez le même cheminement. Et c'est vrai, c'est le cheminement normal. La miséricorde de Dieu nous enveloppe pour que nous découvrions son amour jaloux. Nous avons besoin d'être enveloppés de sa miséricorde pour découvrir la jalousie de son amour. On ne peut pas découvrir tout de suite cette jalousie, on la découvre à travers sa miséricorde. Le passage de l'agneau à l'époux.
Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.